un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est devenu, semble-t-il, une façon de s'exprimer, de dire sa colère, une vengeance fumante et pas très symbolique. Ainsi, à Bourbiac, dans les Côtes d'Armor, le soir du 14 juillet 2021, le premier adjoint à la mairie découvre, en rentrant de la fête, un petit tas de fumier devant sa maison. Il en ignore, dit-il à la presse locale, la provenance. Il ne se connaît pas d'ennemis et n'a pas de conflit de voisinage. Et quand on a quelque chose à dire, on n'agit pas comme ça, ajoute-t-il. Il y a bien plus longtemps, pour protester contre la publication de photos volées, une célèbre actrice française faisait aussi déverser une tonne de fumier devant le magazine People Voici. Enfin, le 6 octobre 2023, dans les Yvelines par exemple, à Richebourg, un groupe d'agriculteurs encadré par le syndicat FDSEA déverse 30 tonnes de lisier devant les caravanes de gens du voyage installés sur un terrain agricole. Le but ici est moins symbolique, car il s'agit clairement de les faire partir. Et pendant ce temps, si vous n'êtes ni paysan, ni célèbre, ni syndiqué, un site, fumier.com, vous propose d'envoyer du fumier de manière anonyme à qui vous le souhaitez pour vous venger ou faire passer un message plus ou moins obscur. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, un autre petit tas de fumier par Pauline Mocor.
Je m'appelle Florian Bottin, je suis salarié pour le moment en attente d'installation avec mon frère, ma sœur et mon père sur la ferme familiale. On est situé au pied de la colline de Sion, en bordure de Saint-Ouen, de la limite Vosges, Meurthe et Moselle. On est un petit peu isolé, on va dire qu'on est en milieu de campagne. Et donc sur notre ferme, donc on engraisse du cochon et donc on a un troupeau de vaches allaitantes. Donc sur l'exploitation, on a à peu près 200 cochons sur l'exploitation et environ 50 mères allaitantes avec les veaux. Donc au total une centaine de bêtes à peu près, qui produisent à peu près environ 300 tonnes de fumier par an. On a fait le choix il y a une dizaine d'années de passer en bio. Donc on produisait entre guillemets déjà de manière biologique, mais sans avoir le label. C'est là qu'on a décidé de passer le cap et d'avoir le label bio. L'histoire, ça fait déjà 2 ans que ça s'est passé, c'était fin août. C'était un peu l'entre-deux périodes, là où on a un petit creux en agriculture entre les semis d'automne et la fin des moissons. Comme tous les ans, à la fin de l'été, voilà, il y a des fêtes agricoles dans le secteur, donc ça permet de se retrouver un petit peu entre agriculteurs du secteur. En général, il y a un traditionnel bal le samedi soir. On était justement parti au bal faire la fête, et donc c'était plutôt sympa. On peut y manger une pizza ou une flamencus qui sont du coup préparées et cuites par les jeunes agriculteurs. Bon, le soir-là, c'est surtout de la bière, voire de la bière locale. Du coup, voilà, là, c'était plutôt une soirée détente à faire la fête entre copains. Donc, on a fêté ça comme il se doit, et puis avec un DJ qui sait mettre l'ambiance, donc qui est assez sympathique. Donc on a passé notre petite soirée. On a dû rentrer aux alentours de 3h30 ou 4h du matin, quelque chose comme ça. Moi j'étais déjà bien fatigué, donc c'est ma copine qui les conduisait pour leur tour. Donc voilà, on ramenait 2 amis au passage en même temps à côté de chez nous. Et donc justement on repassait devant notre ferme pour rentrer chez nous. La maison est à 5 km de la ferme. Et puis en arrivant, du coup, à une parcelle à environ 500 mètres de la ferme, là où on avait donc planté nos légumes pour l'année, nos carottes et nos oignons dans cette parcelle-là. Et donc c'est en arrivant au niveau de cette parcelle-là qu'on a vu qu'il y avait une voiture de garée au bord de la route, à moitié sur la route, à moitié dans le champ. C'était une 3008 bleue, plutôt une voiture familiale, quoi, qui était garée au bord de la route. Au début, on s'est arrêté pour voir s'il y avait quelqu'un à bord. La voiture avait pas l'air bossée, donc ça nous paraissait bizarre pour un accident. Après, j'ai pris l'initiative de descendre et puis de regarder autour de la voiture pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle faisait là à 4h du matin. C'était quand même pas habituel. La voiture, elle était ouverte, mais il n'y avait personne à bord. J'essaie de trouver des papiers dedans pour voir qui ça peut être, qu'est-ce qu'elle fait cette voiture ici. Et puis c'est là que, dans la boîte à gants, du coup, je trouve la carte grise et je vois l'adresse avec le nom de la personne qui appartenait au véhicule. L'adresse, elle était deux villages à côté, à peu près 4-5 km de chez nous. En même temps, je vois en parallèle de l'argent dans la boîte à gants. Je me suis pas amusé à compter, mais je pense qu'il y avait pas loin de 300 euros en espèces dans la boîte à gants. Donc là, je me suis dit, ouais, à tous les coups, c'est une voiture volée. En faisant un peu le tour, je décide d'ouvrir le coffre, et c'est là que je vois dans le coffre des caisses en bois, des caisses à légumes, qui étaient vides. Et c'est là que ça a commencé à m'intriguer sérieusement. Et quand j'ai vu les caisses à légumes dans le coffre, je me suis dit non, en fait, c'est pas une voiture volée. Je me suis dit, à mon avis, ils sont plutôt dans le champ en train de nous voler des légumes plutôt. Donc je prends la lampe de mon téléphone, j'essaye d'éclairer dans le champ pour voir si je voyais une ombre ou quelqu'un qui sortait de là. Et puis non, rien du tout à l'horizon. Après, sur le coup, je me dis, bon, s'ils sont plusieurs, je suis tout seul, je ferai quand même pas le poids très longtemps. En soi, on n'avait pas non plus 50 solutions. Donc je me suis dit, au pire, j'ai l'adresse de la voiture, j'ai l'adresse de la personne, certainement, qui était dans le champ. Donc c'est là qu'on s'est dit, allez hop, il est tard, on va au lit, on verra demain quand il fera jour. On est remonté dans la voiture, on a commencé à repartir, et puis 500 mètres plus loin, ça m'a tracassé. J'ai dit, on fait demi-tour, il faut qu'on y retourne, là, je suis sûr qu'il y a du monde dans le champ. S'il y a du monde dans notre champ, j'ai dit, tant pis, on y va, on va les chercher. Et au moment de faire demi-tour et qu'on arrive au niveau de là où la voiture était garée, on voit que la voiture redémarre, ses phares s'allument et la voiture commence à redémarrer. Donc là, on décide de la suivre. Forcément, je pense que la voiture avait bien compris qui nous étions, donc il s'est démarré une petite course-poursuite. Donc là, on a voulu se rapprocher fort pour pas perdre sa trace. Et c'est là que ça a commencé à accélérer un peu. Donc on a retraversé le village. Je pense qu'heureusement, il y avait personne qui traversait le village à cette heure-là, parce qu'on était un peu au-dessus des limitations. Et après, quand on a commencé à être sur les petites routes qui recoupent derrière le village, entre deux villages, là, un petit chemin de traverse, là, ça commençait à aller vite. La copine, elle voulait pas, elle avait pas autant d'assurance à rouler vite, donc on a perdu sa trace, elle s'est égarée dans un coin, avait éteint ses phares, on n'a pas réussi à retrouver dans le noir sa trace. Et puis donc sur la route du retour pour aller à la maison, on passait dans le village en question où on avait trouvé l'adresse de la carte grise de la voiture. On se met à faire le crochet devant l'adresse indiquée, et puis donc on voit une porte de grange, pas de voiture devant la maison. Forcément, si la voiture était dans le champ, elle pouvait pas être devant la maison. pas de lumière dans la maison. On se posait la question au début en se disant « Est-ce qu'on attend devant que la voiture revienne ?» Parce que forcément, elle va quand même revenir devant chez elle un jour. On s'est dit, est-ce que ça vaut le coup d'attendre? À mon avis, elle est pas folle, elle sait qu'on attend peut-être devant chez elle, donc on s'est pas dit qu'on la croise tout de suite. Donc on a dit, allez, on va au lit, c'est bon pour aujourd'hui, on verra demain. Donc la nuit se passe, et puis le lendemain matin, en allant donc à la ferme, je passe dans le village en question pour voir si la voiture était revenue devant chez elle. Et puis c'est là que je retrouve la même voiture bleue qui était dans notre champ la veille au soir. Je m'arrête au niveau de la voiture, je cherche à faire un petit peu le tour, et puis je vois une arme de poche pleine de terre sur le siège passager. Ah, je suis pas Sherlock Holmes, hein, mais des caisses à légumes dans un coffre, une lampe de poche pleine de terre sur un siège, la même voiture, la même immatriculation, garée à 4h du matin dans un champ... qui plus est de légumes, y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour faire le rapprochement, quoi. Et donc là, j'ai bien compris que qu'on avait essayé de nous voler des légumes la veille. Du coup, suite à ça, je remonte dans ma voiture, je vais en direction de la ferme, puis avec mon frangin, on se met à donner les soins aux animaux. Je lui explique un peu toute l'histoire en rigolant. Je lui dis, j'ai toutes les preuves et tout. Il faut qu'on fasse quelque chose là. On a tout ce qu'il faut. On a trouvé la personne. On a le nom. On a l'adresse. On a tout. Je lui dis, faut qu'on fasse quelque chose. Au début, il me dit, va à la gendarmerie, va porter plainte. Je lui dis, c'est hors de question, on est dimanche, je vais pourrir mon dimanche à aller porter plainte à la gendarmerie. Les gendarmes, on sait comment qu'elle marche, la justice, hein. J'ai des preuves, j'ai tout ce qu'il faut. On va me dire, mais monsieur, on peut rien faire pour vous, ou alors la personne, elle est pas solvable, et puis on pourra rien faire. Donc, j'ai dit, c'est hors de question, on va faire un truc à notre manière. Le but, c'est de pas encore se faire mal voir une fois de plus en disant les paysans ils respectent rien, ils cassent tout. Toujours derrière avec une idée quand même pacifiste. Il faut qu'on fasse quelque chose qui va marquer les esprits, dont les gens vont en rigoler et sans rien casser, parce que c'est pas le but. On n'est pas là pour détruire quelque chose, sans non plus être justicier. Juste histoire d'avoir une satisfaction, d'avoir trouvé notre voleur. Quelque chose de simple, de symbolique, qui va marquer les esprits. Et on va leur montrer qu'on va pas se laisser marcher sur les pieds. C'est là que je me dis, faut qu'on... Il charge un godet de fumier avec le tracteur. On va bénir un godet de fumier dans sa maison. Donc le fumier, ça salit et ça pue, mais au final, ça ne dégrade en rien le matériel. On en a à disposition, donc c'était pas un problème. On est à la campagne. Donc je me suis dit, on en charge un godet avec le tracteur. Et on va rendre une petite visite à notre voleuse. On avait une petite tonne, il y en avait 700-800 kilos, quelque chose comme ça à peu près. Ça fait deux grosses remorques de jardin derrière une voiture, quoi. Ça fait un bon petit tas, histoire de bloquer un véhicule, sans mettre sur la route pour autant, mais juste histoire de faire une petite barrière. Mon frère est partant, donc on se dit, on est parti, on y va tous les deux, parce qu'au début, on savait pas que c'était... une petite dame. Donc on s'est dit, on sait pas trop sur qui on tombe quand même, donc on va y aller à deux quand même. Donc on fait la route, on arrive devant la maison en tracteur, et puis donc arrivé devant, on sonne un coup à la porte avant de bénir le godet. Personne qui nous ouvre. Bon, on s'est dit, on va pas attendre l'après-midi là. De toute façon, la voiture avait pas bougé, elle était toujours devant le garage. Donc, on a baigné notre godet de fumier à ras de sa voiture, à ras de son pare-choc. Donc, de manière juste à ce qu'elle ne puisse pas bouger la voiture et qu'elle soit obligée de pelleter le tas de fumier pour pouvoir dégager la voiture de devant son garage. Et au moment où on s'est mis à baigner, donc, on voit la porte qui s'entrouvre. Donc, on voit la dame qui avait quoi, une cinquantaine d'années à peu près, qui avait les yeux dans la porte entrouverte, qui regardait ce qui se passait. Voilà, elle nous épiait un peu depuis sa porte de grange, mais elle regardait ce qui se passait, mais sans trop vouloir se faire voir au début, je pense. Puis donc, vu qu'elle nous regardait, bah, c'est là qu'on l'a interpellée. La première chose que je lui ai demandé, c'est si elle avait bien dormi. Parce que moi, pas trop quand même, ça m'avait cogité un peu. Elle avait au bas mot 4 heures de sommeil, hein, 5 heures de sommeil. Il était 4 heures du matin, on a été là-bas aux alentours de 9h, 9h30. Donc la nuit était courte quand même pour elle, je pense aussi. Et puis, la deuxième chose que je lui dis... Je lui explique que je lui amène du fumier pour son jardin. Puis elle me répond d'un air comme si elle comprenait pas. Ben non, j'ai pas de jardin. Apparemment, vous avez des légumes dans le coffre de la voiture. Donc, pour faire pousser les légumes, faut bien du fumier. Donc, je vous amène du fumier. Puis c'est là donc elle est sortie de la grange qu'on a discuté un peu devant dans la rue. Du coup, il y a un voisin agriculteur qui passait, qui savait pas trop ce qui se passait, mais qui rigolait. Et donc, après, on a dit à la petite dame qu'on avait bien compris que c'était elle qui était là-bas la veille au soir dans notre champ en train de piquer les légumes. Donc, au début, elle commençait un peu à nier. Elle savait plus trop où se mettre. Et puis après, elle essayait de nous trouver 2-3 fausses excuses en disant « Ah ben oui, mais j'allais faire pisser mon chien. J'allais faire pisser son chien à 4h du matin, à 5 km de chez soi. » Ça reste bien bidon comme excuse. Donc, je lui ai expliqué que c'était symbolique, qu'elle allait transpirer un peu si elle avait le courage d'aller chercher des légumes dans un champ à 5h du matin, 4h du matin, c'est qu'elle devait avoir assez de courage pour pelleter 800 kg de fumier devant chez elle aussi. Donc elle avait pas trop moyen de se justifier. D'un autre côté, elle s'est dit, là le tas de fumier dans la rue, tous les voisins vont le voir, ils vont se demander c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Donc je pense qu'un peu inquiète peut-être du regard des autres, de ce qui va se suivre derrière. Si je faisais une comparaison, je dirais que là le tas de fumier là, ça faisait un peu comme le goudron et les plumes au temps des cow-boys quoi. Là elle était un peu grillée aux alentours et elle était fichée dans le secteur en tant que voleuse quoi. Donc, on lui a expliqué qu'on n'avait pas intérêt à la revoir la même voiture dans ce même champ, qu'on allait passer un cran au-dessus et que si elle n'avait pas compris la première fois, elle comprendrait certainement la deuxième. On a pris une petite photo quand même, souvenir, parce qu'on a dit, faut quand même qu'on garde ça dans un coin, on pourra en rigoler plus tard. Ça la dérangeait pas qu'on prenne la photo devant chez elle avec la voiture et le tas de fumier. Et puis au début, j'ai partagé ça sur les réseaux, mais à mon entourage, à mes amis. Et je voulais simplement que ça sache autour, que les gens autour qui pouvaient la connaître, mais qui la connaissaient pas sous cet angle, découvrent un peu son nouveau visage. On avait fait notre bonne action entre guillemets, on était attendu pour aller manger le midi. Du coup on arrive le dimanche midi pour casser la croûte au concours de la bourre. Et puis du coup bah là je croise pas mal de monde donc je connais. qui ont déjà vu la photo et qui commencent déjà à en parler un peu autour, à en rigoler, à me féliciter. Donc l'après-midi se passe tranquillement, bon enfant. Et là, le téléphone, il commençait sérieusement à sonner dans tous les sens. Je commençais à recevoir des messages. Je commençais à avoir des félicitations, pas mal d'encouragement sur ce que j'avais fait. Donc voilà, j'avais fait un petit paragraphe en même temps avec la photo, parce qu'une photo, on peut lui faire dire ce qu'elle veut. Et donc apparemment, j'étais inspiré ce jour-là et le paragraphe a plu à pas mal de monde. C'est pour ça aussi qu'on m'a félicité sur les réseaux sociaux. Je crois que le dimanche à 20h, on devait être à peu près dans les 5000 partages sur Facebook, quelque chose comme ça. Le lendemain matin, au réveil, les publications, elles avaient déjà plus que doublé. On avait passé 10 000 partages. Et quand on est arrivé au lundi soir, on avait passé les 25 000. Le mardi soir, on est arrivé à l'apogée, on est arrivé à 45 000 partages, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça avait dépassé un peu mon espérance. J'ai eu quelques demandes aussi d'interviews pour des journaux dans le secteur. J'en avais fait aussi un interview sur une radio locale suite à ça. J'étais content que, ouais, pour une fois, on parle du monde agricole avec une vision un peu meilleure de ce qui est d'habitude. Content parce qu'on parle de notre secteur, alors que d'habitude, il n'y a quand même pas grand-chose qui s'y passe. Donc, passer dans la rubrique des faits divers, ça fait sourire, quoi, parce que du coup... On a une célébrité pendant 2 jours, quoi. Et puis après ça, on redevient dans l'habituel et dans le discret, quoi. Moi, en déposant ce tas de fumier, par ce geste-là, c'est une manière de montrer aux gens autour que le respect, il se perd, qu'il y en a marre de se laisser faire, qu'il y en a marre de se faire marcher dessus, de se faire dénigrer, que voilà, c'est, bah oui, c'est juste des légumes qu'on va dire, mais oui, mais c'est nos légumes, c'est notre champ, c'est montrer, que l'agriculture, elle existe toujours. On l'a 3 fois par jour dans l'assiette, mais on se demande très rarement d'où elle vient et comment elle est produite. On a des champs en bordure de maison ou en bordure de lotissement, et ben on va aller les travailler 2 jours plutôt que la nuit pour éviter au maximum le conflit aussi. Hein. Tout de suite, les gens vont dire ah bah oui, mais il fait du bruit, il dérange. On essaye aussi au maximum de notre côté de pas créer non plus de problèmes. Pour moi, j'insiste là-dessus, pour moi, tous les gens qui ont une mauvaise image de l'agriculture, c'est qu'ils la connaissent pas. On se sent surveillé, on se sent toujours un peu épié, un peu surveillé, jugé. Les fermes, c'est les seules entreprises privées qui sont pas grillagées, qui ont pas une clôture autour, qui ont pas un poste de garde avec des caméras. Alors on y arrive de plus en plus parce que à cause des vols, à cause des intrusions, à cause des choses comme ça. Mais c'est quand même malheureux d'en arriver là. Pour moi, l'image agriculture. Elle a commencé à baisser quand les gens ont plus besoin de manquer de rien. Pour moi, le meilleur moyen, c'est malheureux ce que je vais dire, mais pour moi, le meilleur moyen de redorer l'agriculture, c'est qu'on ait une bonne famine et que les gens aient faim, et que les gens crèvent la faim. Et là, je pense que ça remettrait un peu l'église au milieu du village et les gens se diraient « Ah bah merde, ouais, si demain ils sont plus là, comment qu'on va manger ?» Voilà comment je vois un peu les choses.
j'ai la dalle.
J'ai vraiment la dalle.
La ferme.
La ferme, la ferme.
C'était le petit tas de fumier, un reportage de Pauline Mocor réalisé par Vincent Abouchard et mixé par Dali Yaha. Merci à Florian et à sa famille. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Zoé Coupé, et notre stagiaire, c'est Hortense Martin.
How you doing, and what's the deal? How am I supposed to look? How am I supposed to feel? When time has been telling me who to love and where to go, and time keeps on pushing me further on down the road. Flipping through some pictures of when I was a kid, people I've loved, places I've hid. I moved around, tried to change my name. Just one thing put me in my place, and time keeps on telling me who to love. Time keeps on pushing me further on down the road. Time, time, time. Time, time, decided it's through with me. Then time will let me be. Just the other day I stopped by my stepfather's grave. Died at 30 way too soon. I forgot his face. And time keeps on telling me where to go. Time keeps on pushing me.